Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Chers auditeurs et auditrices, popophiles, popophages et popologues de tout poil, nous voici donc réunis pour une nouvelle émission du podcast Pop en stock, nouvelle mouture, donc transatlantique et zoomesque. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de réunir une belle brochette de pop addicts et de geeks et de hackafans autour d'une série qui a quand même eu un grand succès, de Mandalorian. Donc, nous avons tout d'abord Anne Besson qui nous vient de France, donc que je dirais on ne présente plus, puisque grande et spécialiste de la fantasy, des genres de l'imaginaire, etc. Bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Donc, aussi avec les usual suspects, donc Régis Pierrefeu, spécialiste de néo-décadence, mais aussi de hard metal, hardcore, je ne sais plus exactement où.
Je suis plutôt dans le hardcore, je t'avoue, un peu de hardcore. Black metal aussi.
ok, c'est ça. Donc, qui est avec nous à l'UQAM. À l'UQAM aussi, André-Philippe Lapointe, grand spécialiste de Alan Moore, dont vous pouvez déjà consulter en ligne la maîtrise consacrée à Watchmen et qui maintenant travaille sur une thèse sur la crise de la masculinité dans Alan Moore. Bonjour André-Philippe.
Bonjour.
Et un autre de nos collaborateurs assez habituels, Mathieu Lee Goyette, grand spécialiste d'un côté de cinéma avec la merveilleuse revue Panorama Cinéma. Donc, tu es encore en charge, je pense, non ?
Oui, un rédacteur en chef. Oui.
Oui, tout à fait. Et de l'autre côté, grand spécialiste de la bande dessinée à laquelle il a consacré aussi une maîtrise que vous pouvez consulter en ligne sur les Kirby Dots, donc ces points d'énergie graphiques qui sont un peu la griffe de Kirby pour les fans. Merci aussi, Mathieu. Donc, nous allons débattre de plusieurs aspects de Mandalorian qui, je pense, pour l'instant, a eu beaucoup de succès du point de vue du public, mais qui peut-être n'a pas suscité un grand engouement critique. Et je pense que à cela se doit en grande partie que, a priori, le choix d'un genre de space opera totalement affiché, éloigné délibérément des aspects beaucoup plus politiques et quelque peu subversif de la dernière trilogie chez Disney, contrairement à toute attente, puisqu'on pouvait imaginer qu'avec Disney, il y avait la grande peur de la disneyfication, etc., etc. Or, les films ont suivi une voie très discordante par rapport à la saga et par rapport à cette image de marque de Disney. Et là, Mandalorian, c'est un peu un retour à une forme qui se veut plus naïve, plus directement encadrée dans les codes du genre. Et c'est peut-être ce qui n'a pas suscité énormément d'intérêt herméneutique. Pour ma part, je commencerai tout simplement en resituant l'intérêt de la genèse de Mandalorian autour de deux points. Un, c'est le fait que ça part en quelque sorte de l'intérêt des fans affichés dès la première heure pour une figure tout à fait secondaire, voire pratiquement non existante dans le canon officiel des premiers films. C'était le fait que les fans s'étaient mis à acheter très massivement les figurines de Boba Fett. Et ça avait énormément surpris George Lucas et l'équipe de Star Wars, puisque ce personnage était une sorte de nobody dans le grand panthéon dynastique des Skywalker, etc. Et c'est cet intérêt qui, pour la première fois, a manifesté le fait que Star Wars commençait à avoir une vie complètement en dehors de Lucas et en dehors de l'intention de l'auteur, etc. Et comme on sait, ça va créer beaucoup de tensions entre Lucas et ses fans. Et d'un autre côté, ce que ça montrait, c'est que finalement, les fans étaient en train de s'approprier cet univers en essayant d'explorer des coins, des recoins qui n'avaient pas fait l'objet de l'intérêt principal du film. Et de l'autre côté, donc, de Boba Fett, on va passer à Mandalorian par le fait que c'est un spoiler, mais il y en aura évidemment inévitablement dans l'émission. Boba Fett réapparaît dans la deuxième saison de Mandalorian, mais aussi par le fait que Boba Fett était avant tout défini par son armure et que c'est l'armure qui va véritablement identifier la figure des Mandaloriens et donc celui qui donne titre à la saga, mais aussi à sa race, qui est aussi une sorte de caste, on y reviendra. Et de l'autre côté, donc par rapport à cette genèse qui part des marges de la périphérie de l'univers de Star Wars et qui devient centrale dans la série télé, parallèlement, le fait que c'est un véritable retour aux sources du space opera qui avait inspiré initialement George Lucas et qui remontait véritablement aux origines du genre. Lucas est né 3 ans après que le terme de space opera apparaisse dans un fanzine de zombies par Wilson Tucker. Et au début, space opera était un terme dépréciatif. C'était déjà des fans de science-fiction qui commençaient à trouver que les histoires de vaisseaux spatiaux, de gens qui se tirent dessus avec des lasers et tout ça, c'était un truc assez nul, assez dépassé, assez convenu. Et donc, dès 1941, on voit qu'il y a déjà dans le fandom de science-fiction un schisme qui s'est créé, qui va continuer jusqu'à nos jours, entre les tenants d'une science-fiction qu'on va dire plus sérieuse, qui a des sources plus légitimes, qui remonte à Wells, qui remonte, qui peut aussi dialoguer avec, avec les grands textes hors genre du type Orwell, Huxley, etc. Et l'opposition avec un type de science-fiction très routinier, qui était celui des pulps, et qui était donc celui de ces genres d'immenses batailles dans l'espace, d'immenses explorations de planètes, et auxquelles on accusait d'ailleurs, dès 1941, dans l'exposition qu'en fait Wilson Tucker, très succincte, mais il dit « Je propose le terme de space opera pour désigner les trucs très nuls de sauveurs de planètes et de gens qui se tirent dessus, à l'image des horse operas, qui était un terme très dépréciatif par rapport au western de série B, et aussi au soap opera, qui était donc le terme pour désigner les fictions radiophoniques destinées aux femmes au foyer et qui étaient commanditées par des produits de lessive, et d'où le terme de soap opera, donc des opéras de savon. Et donc, c'est justement en s'alignant sur horse opera et soap opera que naît le terme de space opera. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très, très négatif qui pèse d'emblée sur ça. Lucas va avoir accès à l'univers du space opera à travers une de ses figures iconiques et transmédiatiques qui étaient les serials, les films en série de Flash Gordon des années 30, qui étaient passés en rediffusion dans les années 50 et que donc la génération de Lucas et Spielberg et tout ça voit à la télé ces trucs qui viennent d'un autre âge et qui viennent d'une autre époque aussi de la science-fiction et qui est l'époque des pulps et leur extension. Et donc, quand George Lucas, suite à l'échec cuisant de THX, qui est justement une sorte de science-fiction dystopique, la science-fiction sérieuse qu'on opposait au space opera, ben finalement, George Lucas va avoir une sorte de régression, de réaction en tout cas, qui va passer de la nostalgie de American Graffiti par rapport à sa propre jeunesse dans un small town californien, à la nostalgie pour l'imaginaire de ces années-là, la nostalgie pour l'imaginaire des années 50, et donc la nostalgie pour Flash Gordon. Et à travers ça, Lucas, pendant 3 ans, va peiner à faire différents scénarios, etc., en faisant une enquête assez exhaustive sur les origines du genre du space opera et en se nourrissant de quantité de ces éléments. Or, voici que, ce qui est assez curieux, la série Mandalorian, finalement, par rapport à la trilogie Disney cinématographique qui était du côté de la problématisation, pour reprendre un peu le terme de Georg Lukács, donc par rapport au héros héroïque, le héros problématique, et là, bah, tout à coup, on dirait qu'il y a un même phénomène de retour aux sources et de régression vers une forme initiale, space opera, auquel on associait aussi beaucoup dans les critiques. Dès les premiers fans du type Tucker, etc., on associait beaucoup le fait que c'était tout simplement une sorte de western dans l'espace. Donc, l'idée que c'était des cow-boys de l'espace et qu'on était tout simplement en train de réintroduire les mêmes éléments du grand récit américain de la frontière et du western et qu'on ne faisait que changer le cheval par un vaisseau spatial et le colt à six coups par un blaster, etc. Et d'ailleurs, c'est cette image-là que reprend Galaxy, qui va être le porte-parole, le magazine porte-parole de la nouvelle science-fiction problématisée des années 50. Il va justement, dans son premier numéro, il va dire « Vous ne trouverez jamais dans Galaxy les types de récits de Space Western. » Et il donne un exemple qui est devenu très célèbre dans le fandom avec un personnage qui s'appelle Bart Dernston. Et il y a un pastiche de récits de Western. Et je vous le lis très rapidement parce que c'est assez drôle par rapport à Mandalorian, évidemment, quand on y pense. Je traduis en même temps que je vous l'expose. Mais le parallélisme est affiché par le fait que ce paragraphe est suivi par le paragraphe qui serait le western typique. Donc, les réacteurs en marche, Bat Dernston a traversé à toute vitesse l'atmosphère de Bjlijnach, une minuscule planète située à 7 milliards d'années-lumière de sol. Il a coupé son super hyper propulsion pour l'atterrissage et à ce moment-là, un homme de l'espace grand et mince est sorti de l'assemblage un pistolet à protons dans une main bronzée. « Éloigne-toi de ses commandes, Bat Dernston, » dit le grand étranger d'une voix fluette. « Tu ne le sais pas, mais c'est ton dernier voyage dans l'espace. » Les sabots tambourinant, Bat Dernston descendit au galop par le col étroit d'Eagle Gulch, une minuscule colonie aurifère à 400 milles au nord de Tombstone. Donc, en fait, ce que Galaxy fait, c'est que, et c'est très étrange, parce qu'au lieu de faire un manifeste sur le type de science-fiction qu'ils vont publier, genre Philippe K. Dick, etc., ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Nous ne ferons pas ça. » Et donc, ils mettent deux paragraphes avec un Bat Dernston dans l'espace et un autre Bat Dernston donc à Tombstone. Et donc, c'est vraiment comme ça que la science-fiction s'est fondée, moderne, contre ce modèle du space opera qui est aussi un space western. Et c'est justement à ce modèle-là que Mandalorian nous renvoie. Et je passe la parole à Régis qui va, lui, nous parler de la transformation, finalement, de ce cow-boy de l'espace, qui est aussi un chevalier de l'espace, en une nouvelle figure humanisée par la paternité.
Oui, parce qu'on disait déjà que la trilogie originale, c'était une espèce de reprise des codes médiévaux avec le chevalier qui poursuit sa propre ombre, qui poursuit le mal et qui a une espèce de quête du Saint Graal transformé. Je suis d'accord avec toi dans le sens où la série Mandalorian elle a un caractère régressif qui est presque aussi nostalgique. Et c'est pour ça qu'elle marche, je pense d'ailleurs. C'est parce qu'elle fait appel à des codes anciens que les gens aiment, des codes assez simples en fait. C'est-à-dire il y a le héros courtois, courageux, qui est d'ailleurs très très fort. C'est pas un nul qui sort de nulle part. Il a un objet à protéger, il a une quête très spécifique tout au long qu'on suit. Après, il y a des mini-quêtes qui s'embranchent évidemment. Mais ça nous rappelle en fait les récits de Chrétien de Troyes dans la simplicité de la chose, donc les Lancelot, les Perceval, les Yvain, le Chevalier au Lion. Mais plus particulièrement, moi, ce qui m'intéressait dans Mandalorian, c'était ce que j'appelle la néo-courtoisie. C'est un concept que je suis en train de développer, mais que m'ont inspiré de nombreuses fictions. Toutes les fictions, en fait, dans lesquelles on a un héros qui ressemble à un chevalier et qui doit protéger un enfant. Alors, dans la tradition courtoise, normalement, le chevalier, il est à la fois au service de sa dame, mais il est aussi censé protéger sa dame. Donc ça, c'est la courtoisie traditionnelle médiévale. Ce que j'appelle la néo-courtoisie, c'est le déplacement de l'objet de la protection et de l'objet sacré de la dame vers l'enfant. Alors, je pense qu'il y a une raison, mon explication à ça, elle est assez simple, c'est le développement très fort du féminisme. C'est-à-dire que c'est, de nos jours, je pense que c'est très compliqué pour quelqu'un qui fait de la fiction, que ce soit des films, des jeux vidéo, des romans, etc., de mettre en scène un homme qui protège une femme. Je pense que c'est devenu impossible. Et donc, depuis plusieurs années, ça remonte, il y a tellement d'itérations que je ne pourrais pas toutes les nommer, ce transfert s'est opéré et nous avons toujours des figures masculines qui désormais protègent non plus des dames mais des enfants. Je pourrais citer des tonnes de choses. Dans les films, on avait déjà Léon, le professionnel, avec, j'ai oublié son prénom, bref, il y avait Logan chez Marvel, on a The Road de McCarthy, le roman aussi, on a dans les jeux vidéo The Last of Us, on a God of War, il y a des tonnes d'itérations, je ne pourrais pas toutes les citer. Mais c'est toujours le même schéma. Et bien sûr, l'enfant, ça peut être soit un petit garçon, mais très généralement, j'ai constaté que c'était une fille. Donc il y a ce déplacement quand même, il reste encore cette figure féminine. Et dans Mandalorian, on a ce chevalier, donc courtois, qui protège ce petit alien qui ressemble à Yoda. Et donc on se retrouve dans ce schéma-là, ce schéma néo-courtois. Et je pense que c'est ça qui fait que la série appelle à un espèce de caractère nostalgique chez les spectateurs. C'est-à-dire qu'on a, on a le sentiment de voir quelque chose qu'on a vu des tonnes de fois ou de lire quelque chose qu'on a lu des tonnes de fois et qui nous plaît. Ah bah oui, il y a un chevalier, il protège quelqu'un. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez de ce terme de néo-courtoisie, mais moi, je trouvais ça assez intéressant. Et dans le cadre de Mandalorian, je trouve que ça marche très bien. En plus, le chevalier est d'ordinaire assez mutique. Et là, ça fonctionne bien aussi avec le personnage principal. Il ne parle pas beaucoup, il est dans l'action, il ne montre pas trop ses émotions. Vers la fin, on voit un petit peu de ses émotions rapidement. Et puis, bah, il a cet objet, il est prêt à sacrifier sa vie pour cet enfant, quoi. Comme à l'époque, Lancelot pouvait se sacrifier pour Guinevere.
Oui, non, et en fait, bah, je dirais, il y a plusieurs choses. D'un côté, il y a cette expression drôle utilisée par un des critiques qui était qu'au fond, c'est une histoire de « a single dad looking for a job », donc un père monoparental qui cherche un boulot. Donc, effectivement, il y a cette idée-là qui va aussi tout à fait avec l'évolution des mœurs et l'évolution de l'imaginaire de la masculinité, mais aussi de la paternité et de la famille. Donc ça, d'un côté, je pense que c'est un des points d'ancrage avec l'identification qu'on peut faire avec le personnage. Et de l'autre, je dirais que d'autant plus qu'il est défini avant tout par l'armure et que le geste d'humanisation finale, c'est quand il enlève son casque pour que Grogu puisse caresser son visage.
Oui, c'est juste.
Et que c'est le moment vraiment le plus évidemment tendre et c'est un peu le climax aussi des deux saisons, et que c'est ce paradoxe-là qu'au fond, un personnage qui était totalement hiératique et qui ne pouvait, par le code des Mandaloriens, etc., jamais enlever son masque, on pourrait un peu se rappeler dans les récits chevaleresques le fait qu'on ne donne jamais son nom que quand on veut le donner, et que donc, souvent les tournois, c'est parce que justement quelqu'un dit « toi, tu dois me dire ton nom » et l'autre lui fonce dessus, etc. Enfin bon, c'est un sujet qui est un peu particulier. On voit bien que c'est un côté très, très mythologique autour de ça dans la chevalerie. Mais bon, le casque, il remplit un peu cette fonction.
Oui, ben, un tout petit commentaire. C'est quand même intéressant que le quatrième épisode, c'est un épisode où il veut à la fois se défaire de l'enfant, vu qu'il a un peu fait comme ses premières aventures, il a un peu sorti du problème qu'il avait, mais c'est aussi un moment où il vit qui pourrait être une histoire d'amour dans une sorte de lieu édénique qui est loin des technologies, loin de la violence, et qui réussit à ne pas vivre l'aventure amoureuse d'aucune façon. Ça va, mais il se sent responsable de l'enfant et il continue, il choisit plutôt cette quête-là plutôt que de rester où il est, ce qui pourrait mettre en péril l'enfant.
Oui, et d'ailleurs, on passe d'un modèle un peu de cow-boy, presque de spaghetti western, ce qui était le propre de Boba Fett dans la série initiale. On passe de ce modèle-là, du lonesome cow-boy qui va inévitablement fuir les responsabilités de la civilisation, puisque c'est un personnage de la frontière et que donc c'est lui qui fait le pont entre le sauvage et le civilisé, et qu'il doit renoncer traditionnellement aussi à la femme, mais à la famille surtout. Et donc là, on passe le chemin inverse, on passe de ce personnage donc de gunfighter, de tueur à gages, de mercenaire, qui peu à peu s'humanise par le fait qu'il prend une responsabilité. C'est un peu le Petit Prince, d'ailleurs. Ça évoque un peu la figure de la rose.
Je ne m'attendais pas à cette référence.
Oui, ouais, on est responsable, non, la célèbre phrase dans La Rose, et donc de ce qu'on apprivoise. Et au fond, c'est un peu ça, parce qu'il y a aussi un apprentissage. Il ne défend pas seulement l'enfant, mais il y a aussi toute une sorte paradoxale d'éducation qu'il sait qu'il ne peut pas mener à terme, parce qu'il ne peut pas développer tous les pouvoirs latents de l'enfant, mais en même temps, il y a quand même ce souci de s'occuper de l'enfant, d'interagir avec lui, de l'empathie, etc., subvenir à ses besoins, etc., qui sont très appuyés dans la série.
Mais je trouve aussi qu'il y a un côté symétrique dans cette série avec la trilogie, alors pas le 4, 5, 6, mais le 1, 2, 3, parce que la trilogie des origines de Skywalker et de Darth Vader, là, c'est vraiment c'est l'échec pour le coup de la courtoisie originelle. C'est-à-dire Anakin, il est censé protéger sa dame, il est censé être au service de sa dame, mais il échoue à la fin. Et je trouve qu'il y a un parallèle qui est assez intéressant à faire entre cet échec-là et le retour, enfin qui est à la fois un retour et donc une nouvelle tradition en quelque sorte avec l'enfant dans Mandalorian, où en fait on change de paradigme, on va vers l'enfant. C'est comme si la trilogie de 1, 2, 3 manifestait l'échec de la courtoisie traditionnelle et le fait qu'il fallait passer à autre chose.
Oui, mais Mathieu ?
Oui, ben, tout à fait, j'abonde dans votre sens. J'ajoute par rapport à cette figure puis à ce concept de la néo-courtoisie qu'il ne faudrait pas, en fait, qu'il ne faut pas oublier toute l'influence qu'a eu une série et un univers comme Lone Wolf and Cub pour Mandalorian, donc le manga de Kazuo Koike, des années 70, qui est après devenue aussi une série de films. Hein. Il y a eu 6 films produits par la Toei. Puis bon, toute la dynamique hein, entre le chevalier errant, qui est donc un samouraï errant chez Koike, qui doit prendre soin d'un nouveau-né, d'un bébé en fait, là, qui est pas le sien. Donc toute cette dynamique vient beaucoup de cette série qui a, et c'est très intéressant en fait de faire le parallèle en fait, entre l'évolution de cette figure qui vient vraiment d'un bassin culturel qui est complètement différent, qui est celui du Bushido, qui est celui des samouraïs errants, des ronins. Qu'est-ce que les samouraïs errants font quand le shogunat perd le pouvoir puis qu'ils se mettent à errer à travers le Japon. Et donc, ce bassin, hein, de l'autre côté, vraiment de culture occidentale, où là, donc, on a vraiment la figure du chevalier errant hein, qui est absolument centrale. Puis Régis, tu le rends bien exposé. Dans le cas de Lone Wolf and Cub, par contre, c'est assez différent. C'est-à-dire que le samouraï n'a jamais été une figure qui voulait rendre service à une princesse. Le samouraï, en fait, n'a de compte à rendre qu'envers son propre honneur. Et son propre honneur qui est donc prodigué par le Bushido. Ensuite de ça, si Koike, dans son manga, a donné comme ça ce personnage hein, de bambin là, auquel, dans le fond, le samouraï doit protéger, c'est justement pour venir lézarder, venir fracturer un petit peu ce qui était à l'époque devenu, à travers le Chambara, une espèce de figure hyper stéréotypale, c'est-à-dire entre, disons, le Yojimbo de Kurosawa, puis la fin des années 70, hein, il va se produire des centaines de Chambara, des films de sabre au Japon. Puis c'était un peu toujours la même chose, c'est une figure stoïque qui arrive dans le village, puis bon, les mains derrière le dos, les gens se jettent sur lui, il sort son katana, puis on a vu ça aussi hein, se transférer à travers le western spaghetti, puis Léoné et tout ça. Et donc, ce qui fait que Koike veut coller un gamin à ce personnage-là, c'est justement pour le faire parler, pour qu'il y ait un interlocuteur, parce qu'il était toujours silencieux, et le silence des samouraïs, ce qui faisait, et ce qui était dans le fond la mesure du contrôle qu'ils avaient sur leur corps, leurs gestes, leur présence, leur posture. Et donc, avoir un gamin, ben tout de suite, vu que le gamin est pas... Je veux dire, le gamin ne connaît pas le Bushido. Puis il y a plein de séquences dans le manga original qui sont assez fortes là-dessus, où on voit le samouraï, en fait, dire au gamin, ben, tu peux décider, tu peux choisir la voie de la facilité. Et en quel cas, le samouraï va se dire que non, j'ai pas le temps de m'occuper d'un gamin qui choisirait la voie de la facilité, donc je vais le tuer sur le coup à coup de katana, ce qui est quand même super violent. Ou bien sinon, hein, est-ce que le gamin va suivre, hein, va choisir la voie du guerrier? En quel cas, voilà, il va savoir dans quoi il s'embarque. Puis, évidemment, c'est assez beau comme scène et assez troublant parce que le bambin ne comprend pas ce qui arrive. Hein, puis il fait juste marcher à quatre pattes vers le katana plutôt que de marcher à quatre pattes vers le ballon. Donc ce qui est intéressant de ça, je dirais aussi, c'est vraiment donc comment cette figure permet de venir fragiliser en fait ce personnage et de venir, dans le fond, lui donner une dimension supplémentaire, je dirais, par rapport à son code d'honneur. Qui est aussi là, qui est aussi présent aussi dans Mandalorian à travers le code des Mandalorian, puis les codes dans Star Wars aussi sont très importants, hein, comme avec les codes des Jedi, etc., hein, qui sont encore là des éléments qui, dans le cas des Jedi par exemple, me semblent venir beaucoup plus du Bushido que de la culture occidentale. Bien qu'à chaque fois, c'est ça qui est intéressant avec Star Wars, c'est que c'est un hybride, ça vient des deux à la fois, puis c'est dans le mélange en fait hein, des deux influences que ça en fait un truc... avec un intertexte aussi riche.
Oui, et d'ailleurs, dans le parallélisme avec Lone Wolf, ce qui est assez singulier, c'est que oui, il y a ce chemin de crise des valeurs guerrières qui, au fond, sont présentées comme quelque chose d'assez aliénant dans le manga. C'est le contexte aussi de la contestation japonaise dans les années 70. Mais c'est le fait que Daigoro, donc l'enfant, il choisit la voie du sabre, alors que ce choix-là n'est pas formulé explicitement dans Mandalorian, et que dans Mandalorian, Baby Yoda, c'est aussi un réservoir de puissance inexploré, et que le cheminement et la quête va beaucoup dans le sens de de l'éclosion de ce pouvoir latent dans l'enfant. Donc la dynamique, je pense qu'effectivement, elle est intéressante à suivre dans le détail, puisque Mandalorian est aussi en train de dialoguer avec ça et de le transformer par rapport à la saga de Star Wars, mais aussi par rapport à un autre imaginaire quelque part. Non? Anne, tu pensais nous parler plutôt des espaces
Attends, je voulais déjà revenir sur, sur ce qu'a dit Régis. Je voulais revenir sur la notion de néo-courtoisie que tu nous as gentiment invité à commenter. Alors, à la fois, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour un sous-texte médiévaliste, médiévalisant très important dans la saga et qui passe par le filtre du cow-boy dont a parlé Antonio, donc avec un personnage donné comme chevaleresque et puis en même temps un mélange avec la mystique, mystique plutôt orientale, hein, comme l'a dit Mathieu. Alors maintenant, sur le terme même de courtoisie, il faut faire attention parce que c'est un des nombreux termes qui nous pose un peu problème dans le champ donc du médiévalisme, parce que c'est une notion qui, au Moyen-Âge, est très compliquée, dont il faut tenir compte quand on l'utilise, du fait que elle a toute une histoire et que quand on l'utilise, enfin, ce qu'on entend aujourd'hui par courtoisie a perdu souvent beaucoup des éléments de départ, notamment c'est une notion politique, c'est une notion qui a surtout pour but de gérer les relations entre un vassal et son suzerain, en ajoutant une relation intermédiaire qui est celui avec la femme du suzerain, puisque la gendre dame, c'est forcément la femme du maître, donc elle est mariée et elle est mariée au maître, et c'est une étape de civilisation qui sert aussi à gérer la brutalité des rapports sexués et sexuels en rendant la femme radicalement inaccessible. Donc la courtoisie, c'est pas protéger une femme, parce que la femme aimée de la courtoisie, elle est pas pour toi de toute façon, et c'est la belle dame sans merci. Et l'histoire de Guenièvre et Lancelot est déjà une mise en crise très forte de ces notions de courtoisie. En fait, une mise en récit donc qui introduit du conflit là où normalement la courtoisie est censée les régler. Donc, d'accord pour le passage de la protection de la femme à la protection de l'enfant, je trouve ça très frappant. Après, l'appeler néo-courtoisie, j'ai pas forcément d'autres solutions.
C'est un brouillon de réflexion, donc ça me fait du bien que tu me parles un peu de ça. Mais pour le coup, où est-ce que tu mettrais Tristan et Iseult? Si, est-ce que ça reste un récit courtois? Parce que tu disais, la femme est de toute façon pas pour lui, mais là dans Tristan et Iseult, il y a un problème.
Oui, mais dans le triangle avec Guenièvre et Arthur, également, à chaque fois qu'on utilise, que la courtoisie est utilisée dans un cadre romanesque, c'est justement dans un moment où, pour raconter des histoires où ça va être subverti, où justement cet interdit, il va être franchi. Mais bon, voilà, comme toutes les histoires romantiques depuis donc littéralement les origines, racontent les difficultés à surmonter un obstacle, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc là, effectivement, les romans courtois, ils racontent comment cette femme normale, enfin cette histoire qui ne devrait pas avoir lieu, enfin, qui selon les codes de l'époque ne pourrait pas avoir lieu, a lieu quand même. Donc effectivement, on a ces deux grandes histoires qui racontent un adultère avec la reine. Mais c'est parce que c'est pas possible. C'est de la même façon que les romans harlequins d'aujourd'hui, ou d'hier en tout cas, racontaient la secrétaire et le patron.
C'est, voilà. Donc la secrétaire et le patron, c'est de la néo-courtoisie pour le coup.
C'est ça. Ben non, parce que c'est l'inverse.
Oui, c'est l'inverse. Je faisais une blague. Ouais. Bon, faut trouver un nouveau terme, ok, je note.
Oui, mais néo-chevaleresque peut-être.
Ah, peut-être, oui.
Voilà, néo-chevaleresque, ça me semble pas mal. Avec l'idée, justement, ce qui a été attaché en réception du Moyen-Âge à l'image du chevalier. C'est pas mal. Si je peux en plus, comme ça, c'est toute la brutalité dont a parlé Mathieu, et voilà, on peut en parler comme ça.
Et si je peux me permettre d'ajouter, avec néo-chevaleresque, ça permet en fait de venir comme intégrer toutes les notions de chevalerie, entre guillemets. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est quand même un peu la même chose, mais les notions de chevalerie au Japon. Qui informe aussi.
Oui, et c'est vrai que ce lien était, vous l'avez déjà signalé, mais était très important dans la construction initiale, très patiemment élaborée, avec beaucoup de glissements de sens, etc., des Jedi dans l'univers de Star Wars. Donc Anne, les espaces maintenant ou
Oui, tout à fait. Alors en fait, au-delà des espaces, oui, moi j'ai vu le Mandalorien comme un tout petit monde, dans plein de sens, parce que c'est paradoxalement une série qui est pensée comme une expansion du canon Star Wars, bien sûr, qui prend place donc dans la nouvelle stratégie Disney qui vise à multiplier de telles pistes d'expansion, une stratégie qui elle-même prolonge et récupère la tendance des appropriations faniques, hein, c'est-à-dire qui vise à combler des vides et à explorer les moindres failles qu'il pouvait y avoir dans le canon original. Et pourtant, cette série, elle m'est apparue comme produisant progressivement, et en particulier dans la deuxième saison, un effet de réduction, comme si on avait affaire à un mini-monde, hein, à Star Wars in a nutshell, en fait, avec bon, voilà, toute la question de savoir si c'est un effet positif ou non sur la spectatrice. Le premier truc frappant dans ce sens, c'est que tout se passe comme si dans cette galaxie Star Wars qui, à la fois en tant que monde et en tant que fiction, est réputée comme immense, infinie, les milliers de planètes sur la carte de Star Wars, et puis l'univers étendu, qui est très, 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 très étendu, et ben en fait, on retombe toujours, d'abord, sur les mêmes planètes, avec des effets d'aller-retour absolument frappants dans les déplacements de Mando. Il a un vaisseau incroyable, mais ce vaisseau tombe en panne un épisode sur deux, et donc il doit invariablement revenir aux mêmes endroits, puis il se pose des questions, est-ce qu'il a bien fait de partir, donc il revient. Donc on revient toujours sur la même planète, et on revient donc toujours sur les mêmes personnages. Il y a une absence de diversification du personnel utilisé dans cette fiction, qui ressort clairement dans la deuxième saison, d'autant que vont progressivement s'y ajouter le retour de personnages issus d'autres segments de la franchise et qui donc voilà, vont se mystérieusement, par une série de coïncidences, se retrouver dans ce tout petit monde. Alors, bien sûr, il y avait Ahsoka Tano, la Jedi, hein, donc, il y avait un espèce de mystère sur son arrivée, mais c'est elle. Boba Fett en a parlé, et puis le fameux personnage surprise, hein, de l'ultime seconde du dernier épisode de la seconde saison. On va garder le suspense, et puis s'y ajoutent de multiples effets de retour. S'y ajoutent donc des effets de retour aux sources, alors à la fois des ressources de retour aux sources du space opéra dans le western, hein, tu en as parlé, Antonio, avec les citations permanentes, hein, de l'iconographie western, de manière vraiment appuyée. Le duel au soleil dans la ruelle poussiéreuse, le camp de mineurs, les casques de Stormtroopers au bout des pics, etc. Donc, un effet de nostalgie qui est même approfondi par comme une sorte de retour à l'enfance, hein, sous plein de formes. Tu parlais de quelque chose de naïf. C'est aussi un retour au public des enfants, hein, qui sont a priori les premiers visés. Hein. C'est une série qui est 7+, donc ça vise vraiment un public jeune. Il n'y a jamais rien de violent, de choquant. Et notamment un retour à ce qui était quelque chose de très marqué dans les premiers Star Wars, donc dans 4, 5, 6, l'effet coffrage jouet, comme un clin d'œil, bien sûr, à la figurine de Boba Fett, dont le succès aurait inspiré, le succès auprès des enfants aurait inspiré toute cette série. Donc voilà, l'insistance sur tout ce qui est casque, armure, lance, les sigils. Moi, mes enfants, ils ont investi massivement dans tous ces trucs-là. Et puis le bébé Yoda, hein, qui est une espèce d'idéal type de la peluche kawaii et geek, tu vois, donc vraiment permettant de maximiser son potentiel commercial. Et c'est comme si le potentiel d'investissement ludique imprimait sur toute ambition narrative, hein, dans la série. Donc la question que je me pose, c'est de savoir si on va vers une saturation des formes audiovisuelles canon, hein, de la saga, parce que un effet de saturation de ce monde, il est trop plein, hein, il est trop petit, et du coup on tourne tout le temps dans les mêmes endroits avec les mêmes personnages, qui serait un produit à la fois de la réduction au petit écran, qu'est Disney+, hein, on a un petit monde pour le petit écran, et puis par la multiplication, bien sûr, des spin-offs, prequels, quasi-remakes, etc. Il y a notamment quelque chose qui m'a frappé, c'est l'espèce de perplexité chronologique qui peut saisir le spectateur, même le spectateur expert comme moi. À quel moment on se situe exactement ? À quel moment de la saga ? On le sait, mais régulièrement, on est un peu surpris face à la succession, en fait, cyclique hyper rapide, hein, des phases républicaines et impériales. Hein, on a fait République, Empire, République, Empire, en trois générations, hein, en fait. Voilà, c'est Anakin, Luke et Kylo Ren. Donc, deux allers-retours complets, hein, deux retournements politiques complets en trois générations, et ce, alors que le peuple des Grogu Yoga, Yoda, je ne sais pas comment on l'appelle, ce peuple-là vieillit ou grandit extrêmement lentement. Donc, du coup, on a un contraste, je trouve, très frappant entre ces deux effets temporels-là, une espèce d'accélération du temps par la réitération cyclique des bouleversements politiques et un arrêt du temps par l'idée que Grogu a déjà 50 ans, je crois. Donc, Grogu était déjà là au moment d'Anakin. Hein. Il était déjà là à la chute de la Première République. Et puis, il n'y a plus de Jedi, mais en fait, il va y en réavoir d'ici très peu, puisque Luke est sur le point, rappelons-le, de former la nouvelle génération. Bon, donc voilà, il y a des effets comme ça de légères bizarreries chronologiques qui ne sont pas des incohérences, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la continuité, mais un effet de saturation, en fait, de l'emprunt temporel qui est couvert par la saga. Voilà, c'est en train de devenir trop court pour tout ce qu'on veut mettre dedans. Je me suis un peu posé la question de savoir pourquoi. Il y a bien sûr un effet Disney, il y a sans doute aussi des questions de budget et ou de technique, mais ça, je crois que Mathieu pourra nous en parler. Moi, ce que je vois, c'est aussi quelque chose qui vient tout simplement d'un fonctionnement typique des feuilletons, et ce, depuis les origines. Ça a toujours été un monde de coïncidences. D'ailleurs, ça vient d'ailleurs du roman grec, et puis des romans feuilletons, les premiers dans les journaux. C'est un monde de coïncidences. Tous les personnages qu'on a croisés vont s'avérer finalement liés. Hein, ça va être les fils, les frères, les maris perdus. Et en fait, tout ça, c'était la même famille. Et voilà, on avait cru qu'il y avait du divers, mais ça se rassemble, ça converge. Et puis, parce que pour produire de l'événement, les deux effets de Rome et de tissage de liens entre des éléments jusqu'alors divers sont deux solutions qui s'imposent hein, vraiment au cœur des dynamiques sérielles, voilà, qui sont les deux formules de retour, de construction sur le temps long qui sont les plus pratiques. Et c'est juste là, le fait de les voir à l'œuvre sur deux saisons de séries assez courtes, qui les fait ressortir aussi crûment.
Mais tout ce que tu dis, ça renforce cette idée de qu'on est face à une série qui est dans la régression nostalgique totalement, en fait, parce que le fait que le cadre soit si limité, comme tu as l'air de le dire, selon moi, c'est parce que les créateurs, qui sont des gros fanatiques de Star Wars, je crois que c'est ceux qui sont responsables de Clone Wars, la série d'animation, oui. Si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'ils essaient presque de défaire le 7-8-9, dans le sens où, pour eux, ils reviennent à la tradition de Star Wars. Et pour revenir à cette tradition et défaire le 7-8-9, ils repassent, comme tu le disais, par des espaces qui sont connus, des espaces qui donnent une nostalgie, et peut-être qu'ils s'enferment d'eux-mêmes dans cette tradition-là, pour peut-être, espérons-le, dans la saison 3, aller ailleurs. Mais en fait, c'est comme si les deux premières saisons étaient là pour dire « Ok, regardez, c'est ça Star Wars, on vous redonne du Star Wars. » Et le 7-8-9, oubliez ça, ça n'existe pas.
Oui, Adok, il y a d'ailleurs ce paradoxe amusant qu'on sait que Tatooine est présenté par Luke dans le premier film comme le coin le plus paumé de l'espace. Or, on a l'impression que tout se passe à Tatooine et que les gens passent leur temps à aller dessus, à repartir, etc.
Fameuse... La ville la grande ville de Tatooine.
C'est peut-être juste une chose que j'ajouterais. Il y avait déjà eu dans les fans l'idée de faire une trilogie avec des chasseurs de primes qui s'appelle La guerre des chasseurs de primes. Donc, c'est même pas quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment pas une bonne trilogie. Je vous la déconseille fortement. Mais ça avait quand même l'intérêt de changer de code. C'était quand même beaucoup plus dans l'espionnage avec vraiment une structure un peu comme dans Les Mémoires dans la peau de Robert Ludlum et vraiment des trucs hyper empoulés où j'ai repassé le résumé pour revoir, puis ça ne tentait vraiment pas de la relire. Et j'avais de la misère à comprendre ce qui se passait. Il y a des personnes qui ont fait des machinations en faisant semblant qu'ils avaient fait des trucs pour finalement un peu au moins déconstruire certains codes anciens et rentrer dans une certaine surcomplexité, espionnage, pour essayer d'amener les personnages ailleurs et travailler justement toutes les figures qu'on avait vues que quelques secondes. Je ne dis pas que c'était nécessairement très réussi, mais au moins, il y avait cette tentative-là de jouer avec les codes pour aller ailleurs.
Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de cette espèce de problème de perception qu'on a par rapport aux différentes strates historiques ou historicisantes de Star Wars qui viennent à notre époque beaucoup du fait qu'on considère les épisodes 4, 5, 6 hein, un peu comme en fait une sorte de mythe originel. Et là, la question, c'est un peu de se dire, mais qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ce mythe originel qu'on a encore sous la main? Si on est dans le bureau de Lucasfilm, là, donc quel acteur on peut encore aller chercher, hein, puis mettre dans un costume ou de-ager hein, avec le CGI? Qu'est-ce qu'on peut utiliser donc, pour faire revenir cette espèce de sentiment hyper nostalgique quand on voit Donc, quand on voit des X-Wing arriver dans la deuxième saison, il y a ça, en fait, qui arrive. On est comme, ah, ça, c'est les vrais vaisseaux. C'est pas les vaisseaux des 7, 8, 9 qui sont des X-Wing, mais le moindrement qu'on a assez vu de Star Wars, on sait que c'est pas vraiment les X-Wing, c'est des X-Wing, mais là, ils ont changé de couleur, là, la peinture est neuve. Fait que c'est pas vraiment le même truc. Et je dirais, en fait, que c'est assez intéressant de voir comment, d'une part, il y a Mandalorian qui a donc une interaction avec, disons, les épisodes 4, 5, 6 en tant que bassin sémantique originel et qui, je crois, participe à cette impression de petitesse, un peu d'aquarium là, avec lequel je suis complètement d'accord. Ça manque de nouveauté par rapport à ça. Et je dirais qu'il y a la même chose qui se produit avec les épisodes 7, 8, 9, mais pour des raisons qui sont différentes. C'est-à-dire que les épisodes 7, 8, 9 aussi considèrent les épisodes 4, 5, 6 comme étant le mythe original, mais leur approche donc de ce ressourcement a été davantage technique, en repassant à la caméra, je dirais, au filmage pellicule notamment, puis à des effets pratiques, donc avec une sorte, disons, de relation à l'histoire interne de Star Wars, hein, qui était d'abord et avant tout technologique.
Oui, d'ailleurs, c'est sur ça que tu voulais mettre l'emphase, sur le fait que dans Mandalorian, il y a une réussite technologique. D'ailleurs, c'est curieux parce que Lucas, qui n'a pas du tout aimé la nouvelle trilogie, justement parce que selon lui, chaque nouvelle trilogie de Star Wars doit être une sorte de coup de maître ou d'avant-garde technologique, puisque c'est ce qu'il avait fait, lui, dans ses deux, dans ses différents films, et qu'il considérait qu'il n'y avait pas d'innovation technique, et que donc, pour lui, selon ce principe assez particulier quand même, pour le dire, c'était un échec, alors qu'il a salué Mandalorian. Et est-ce que ce n'est pas justement parce que Mandalorian introduit une nouvelle technologie, encore une fois, à l'avant-garde cette fois-ci?
Oui, complètement. C'est-à-dire que Star Wars a toujours été une saga qui a été beaucoup définie par ses avancées technologiques, à la fois à l'intérieur, disons, de la production des films, mais aussi au regard de ce que l'industrie du cinéma pensait de Star Wars et comment l'industrie du cinéma s'est laissée influencer par Star Wars au fil des décennies. Et jusqu'à un certain point, je dirais que le vrai génie de Lucas, hein, ou disons la pointe de son génie, c'est peut-être moins sa capacité à créer des univers puis à trouver des noms de planètes amusants, mais bien plus d'avoir été en mesure de travailler vraiment donc à cette espèce de point de convergence entre donc des avancées technologiques et ses désirs narratifs à lui. Puis essayer de voir, OK, ben comment dans le fond l'un peut s'agencer avec l'autre, comment on est capable de servir de telle technologie pour raconter tel type d'histoire, puis en retour, comment tel type d'histoire peut être raconté en mettant en valeur implicitement le fait que ces histoires-là ne peuvent être racontées à ce moment-là dans le temps que parce qu'il y a cette technologie-là qui permet de les raconter. Parce que ça a toujours été comme ça pour Lucas, une manière de dire, ben, vous voyez, les outils que je développe me permettent de faire ça. Parce que très rapidement, Star Wars, ça a été Star Wars, mais aussi Industrial Light and Magic. Et tout le complexe Lucasfilm qui est devenu, dans les années 80, le complexe de pointe le plus important à Hollywood pour faire de la post-production de films. Et donc, du coup, c'est les Star Wars de Lucas, après le premier, sont devenus un peu des cartes de visite, des démos technologiques pour ce que son entreprise de post-production était en mesure de faire. Et c'est pour ça que dans les années 90, par exemple, Lucas a été un des premiers apôtres du cinéma numérique et qu'il y a eu ce virage numérique très, très radical à partir... l'épisode 1 a été tourné en 35 mm, mais il y avait énormément de contraintes technologiques dans la manière dont la caméra, par exemple, se déplaçait par rapport aux écrans verts, aux écrans bleus qui étaient à l'arrière. Mais à partir de l'épisode 2, hein, c'était tourné en numérique. Puis Lucas, au même moment où est-ce qu'il produisait, scénarisait, montait ces films-là, il organisait des séminaires technologiques sur son ranch de Lucasfilm, où est-ce qu'il invitait James Cameron, Spielberg, etc., pour leur montrer, en invitant des gens de Panavision, pour leur montrer, mais voilà, les nouvelles caméras technologiques, c'est en train de remplacer le matériau celluloïde. Puis c'est, je veux dire, c'est du lobbying, en quelque sorte, hein, qui essaie de pousser, dans le fond, l'industrie, et à travers ses collègues, vers donc des formes de cinéma numérique. Puis en ça, c'est intéressant de voir les épisodes 4, 5, 6 effectivement comme étant une progression technologique qui est de plus en plus difficile aussi à mesurer parce qu'il y a eu toutes ces special editions et ces, et ces réécritures de la part de Lucas, hein, qui en disent long aussi sur sa conception de l'histoire du cinéma. Mais c'est intéressant aussi de revoir à notre époque les épisodes 1, 2, 3 à la lumière de ça, que je trouve des épisodes, en fait, qu'à chaque fois que je les réécoute, hein, je les aime de plus en plus, personnellement. Parce que on se rend compte à quel point il y avait plein de récits dans ces histoires-là, à quel point il y avait beaucoup de politique, à quel point tous ces éléments politiques ont été évacués des épisodes plus récents sous Disney. Mais au-delà de ça, je les ai trouvés vraiment intéressants comme une sorte d'histoire de l'utilisation de la technologie, en fait des rapports entre la technologie et la mise en scène à Hollywood. C'est-à-dire que quand on regarde The Phantom Menace en 99, c'est assez fascinant de voir à quel point on est vraiment retourné à une sorte de cinéma très, très primitif, très monstratif. La caméra, elle est immobile sur quasiment tous les plans du film. Parce que ce n'était pas possible à ce moment-là de déplacer la caméra et de faire se déplacer des personnages devant la caméra et d'avoir un écran bleu à l'arrière et que tout ça, hein, marche bien au niveau du compositing à la fin. Ce n'était pas possible. Donc, le premier est extrêmement statique. Le deuxième bouge de plus en plus, est rendu dans le troisième. Hein, il y a des jeux de balais de caméra qui sont extrêmement impressionnants encore aujourd'hui, parce que justement, bon, en 7-8 ans, là, la technologie de ILM avait évolué à ce point-là. Alors que donc, comme je disais tout à l'heure, les 7-8-9, quand ils sont revenus dès le début, si vous vous rappelez, la première vidéo, hein, la première bribe d'image qu'on a vue de l'épisode 7, au moment où on savait, où tout le monde pensait que Finn allait être le Jedi. À ce moment-là, la première vidéo qu'on a vue, c'était une espèce de vidéo making-of du set de Force Awakens. Puis la première image de ce premier vidéo-là, hein, c'est l'intérieur d'une caméra 35 qui est en train de filmer, hein, qui est vraiment donc d'emblée un signe très, très fort envoyé au public en disant « Le Star Wars que vous aimez, c'est-à-dire le 4, 5, 6, est en train de revenir, hein, de revenir et d'être vraiment donc au...
Toute cette transformation atteint un nouveau stade avec Mandalorian, en fait.
Oui, c'est ça, parce que là, bon, avec les 7-8-9, c'était l'enjeu de dire aux gens, on retourne au 35, on retourne à la pellicule, à ce Star Wars, et c'était très visible, donc, dans la mise en scène. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de regarder, disons, les 30 premières minutes de l'épisode 7, qui sont peut-être les 30 meilleures minutes de la carrière de J.J. Abrams, il est extrêmement conscient de ce qu'il fait. Il y a beaucoup de jeux sur le changement de focal. Hein. Il change le point très, très fréquemment entre les visages, sans couper, qui sont, dans le fond, des manières d'utiliser la caméra, hein, avec une mise en scène qui est à peu près impossible d'utiliser de la même manière avec du numérique, où la profondeur de champ est aplatie et beaucoup moins intéressante. De la même manière, dans l'épisode 7, souvent, vous voyez au début, quand Rey passe à travers le champ et qu'il y a ce gros destroyer à l'arrière, ou quand on voit des TIE Fighters, hein, tourner autour d'eux la première fois qu'ils vont les attaquer, il y a une profondeur atmosphérique, en fait, qu'on voit, qui est extrêmement picturale, qui est très bien travaillée, puis qui est, bon, effectivement numérique, hein, dans son exécution, mais qui est un autre rappel du fait qu'on veut retourner vers un Star Wars où c'est de la vraie lumière qui s'imprime sur de la vraie pellicule. Parce qu'on est vraiment donc dans une dynamique qui est picturale et classique. Alors que quand on arrive avec Mandalorian, on arrive avec une nouvelle technologie qui s'est développée en parallèle à tout ça, qui n'a absolument rien à voir avec la pellicule et qui s'appelle le Stagecraft. Et le Stagecraft, pour l'instant, c'est donc une nouvelle technologie qui est développée par Industrial Light and Magic et qui, ça fait très, très Star Wars comme dispositif, et qui repose sur des écrans de projection qui sont composés de cristaux. Et ces cristaux, qui sont un peu comme les cristaux des Jedi, ça leur prend des années avant de pousser. Ça prend 5 ans, en fait, avant que les cristaux de ces écrans puissent pousser puis réfracter la lumière avec un niveau, en fait, de définition suffisamment élevé pour tromper l'œil. Donc, puis en plus, c'est compliqué parce que, évidemment, ces cristaux-là doivent pousser dans des conditions extrêmement régulées, ce qui fait que, bon, vu qu'un écran, hein, fait à peu près, c'est à peu près comme 6 mètres de large par à peu près 6 mètres de haut, il faut plusieurs de ces écrans, donc, pour être capable d'avoir une scène, hein, de studio, donc, qui va être couverte complètement par ces surfaces de projection. Donc, ça implique de faire pousser les écrans en même temps. Parce que donc les écrans qui ne poussent pas en même temps, pas à partir de la même année, comme s'il y avait des crues d'écran maintenant, Lucasfilm, ne vont pas réfracter de la lumière de la même manière. Bon. Donc, ça a l'air d'être vraiment de la science-fiction en le racontant, mais je vous le jure, ça existe pour de vrai. Puis donc, ce que ces écrans-là permettent de faire, c'est donc de projeter sur eux une image qui va, en principe, parfaitement absorber la lumière. Et ce qui est donc la grande différence, c'est ce qui fait que c'est une technologie, le stagecraft, qui s'inscrit aussi dans une très, très, très longue lignée d'évolution technologique à Hollywood, qui part, disons, des premiers écrans de projection qui servaient dès les années 20 à, par exemple, simuler des conversations en voiture. Avec des personnages dans une voiture, on projetait à l'arrière donc des scènes de route, là, du stock shot, et bon, ça donnait cette impression-là. Puis évidemment, ça paraît, puis ça a toujours paru. Puis encore aujourd'hui, ça paraît, quand ce n'est pas une vraie voiture qui est en train de rouler pour de vrai, on sent les techniciens sur le côté quasiment en train de bouger la bagnole. Donc le stagecraft est un peu comme la dernière évolution de cette longue lignée de mise en scène technologique qui, par le biais du compositing, essaie de faire coexister dans un... dans le même plan disons, d'existence diégétique, plusieurs épaisseurs, plusieurs calques un peu de réel. Donc le stagecraft, ce qui est particulier par rapport à ça, c'est qu'en absorbant parfaitement la lumière, il n'y a pas de lumière qui se réfléchit, donc ça ne paraît pas à l'œil de la caméra que c'est un écran. Et donc en réfléchissant parfaitement à la lumière, ça donne l'impression qu'il y a une réelle profondeur de champ dans cet écran-là, qui la simule parfaitement. L'autre particularité du stagecraft, et qui est donc vraiment un peu, je dirais, le fruit là, du travail technique d'ILM, c'est le fait que c'est une technologie qui fonctionne en s'agençant avec des outils de développement de jeux vidéo, puis en l'occurrence, l'engin Unreal. Ce que ça permet, c'est que contrairement à toutes les autres technologies, dans le fond, de projection, de background écranique, c'est que là, la caméra, disons qu'on fait un traveling sur le plateau de Mandalorian, mais dans le fond, le traveling va être triangulé avec le système de projection. C'est-à-dire qu'en se déplaçant, le système de projection va calculer le déplacement de la caméra et va donc réaxer en fait, la projection selon la caméra. Ce qui va donc en fait, permettre de passer par-dessus la contrainte principale qu'avait ce système-là. C'était le fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on bouge la caméra et que l'arrière-plan demeure fixe, l'illusion elle se brise immédiatement. Ce qui est donc aussi, par ailleurs, la raison pour laquelle la mise en scène dans le premier épisode de Phantom Menace était aussi statique. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était impossible donc, de faire ce genre d'ajustement avec autant de précision. Donc, la caméra de Mandalorian est capable de faire ça pour ces raisons-là, et ça permet en retour à Jon Favreau, qui a vraiment été un peu l'apôtre de cette technologie-là auprès d'ILM, d'utiliser des manettes de jeux vidéo, en fait des manettes de réalité virtuelle qui sont les mêmes qui sont utilisées quand on fait de la sculpture en réalité virtuelle, qui est un truc qui se fait de plus en plus. Donc, ce qui permet à Favreau de se mettre un casque de VR sur la tête et d'aller jouer, entre guillemets, dans son décor numérique, d'aller déplacer une roche, d'aller dire « Ah, ben, ce ciel-là est un peu trop bleu, il pourrait être un peu plus rosacé, machin. » Puis de vraiment jouer au peintre numérique à l'intérieur de son espace numérique. Puis après ça, ils partent la caméra, les acteurs connaissent leur ligne, puis on peut juste s'amuser dans cet univers-là. Favreau, par ailleurs, a été vraiment donc... l'apôtre de ça parce qu'il a été le premier cinéaste à s'en servir sur un long métrage à Hollywood. Il s'est servi d'une technologie très semblable, en fait, au stagecraft. Il l'a fait de Jungle Book pour Disney et plus tard Lion King. À la différence que pour Jungle Book et Lion King, on ne parlait pas d'avoir donc ça, des vrais acteurs en train d'interagir. Alors que là, le niveau d'avancée technologique d'ILM permet vraiment donc, aux comédiens d'avoir l'impression en étant en costume, avec leur équipement et tout ça, d'être en quelque sorte dans cet espace. En revanche, ce que je trouve assez intéressant quand on regarde ce système de mise en scène et qu'on le compare au système de mise en scène qui a été, disons, prodigué par les épisodes 7, 8, 9, qui étaient en décor réel avec des marionnettes, de la pellicule et machin, là, du côté de Mandalorian, on est retombé, je dirais, dans un espèce de mode qui reste extrêmement restrictif. Et où on est encore une fois dans ce paradigme de scène, de caméra très monstrative, très frontale, ça fait très figurine, comme les figurines qui se vendaient avec des espèces de petits dioramas en carton là, pour dire « voici la cantina », des trucs comme ça. Donc on est vraiment un peu dans cette logique-là et qui vient avec un paquet de je ne sais pas si c'est des contraintes ou si c'est des tics de mise en scène qui sont comme un peu favorisés par ce genre de paradigme-là, mais il n'y a pas d'avant-plan dans Mandalorian. Il n'y a pas d'avant-plan, il n'y a pas d'amorce, ou pratiquement pas. Il y a très, très peu de jeu sur du surcadrage. Il y a très peu d'éléments qui viennent s'inscrire entre notre regard de spectateur et ce qui se passe dans l'action. Et on est comme toujours on est vraiment dans un studio, hein, où la caméra puis toute la mise en scène est absolument omnipotente et peut toujours avoir le meilleur angle de vue, puis par meilleur j'entends vraiment l'angle de vue le plus commercial sur l'action, parce qu'il n'y a pas de contrainte physique. Je trouve que ça, même si la série a un paquet de qualités, je pense qu'à la longue, ça va peut-être finir par étioler quelque chose, puis notamment au niveau de la diversité des aventures, des décors, des environnements, de tout ce qui fait partie aussi de Star Wars. Quand on est sur Dagobah dans l'épisode 5, il y a de la fumée, ça fait vraiment peur. On le sait que c'est un studio, hein, ça fait vraiment peur. Je veux dire, il y a de l'eau, hein, et puis de l'eau, elle est vraie, puis on ne sait pas ce qui va sortir de cette eau, puis il y a des lianes qui passent à l'avant-plan du cadre, puis il y a un truc là qui est vraiment donc c'est un peu plus organique.
Oui, c'est curieux comment on retourne périodiquement dans l'histoire du cinéma à des formes de statisme. C'était déjà le cas quand on a introduit le son, etc. Et comment à chaque fois, c'est un réapprentissage de l'ensemble du système narratif cinématographique qui est engagé. Mais on peut imaginer que ce système qui est pour l'instant pionnier va devenir beaucoup plus standard et que aussi il va sûrement se transformer et permettre, un peu comme ce que tu évoquais dans l'évolution de la prélogie, comment on passe d'un statisme initial à un côté virtuose. Et je pense que c'est probablement ce qui risque de se passer aussi avec cette technologie.
Nodin, juste pour rebondir là-dessus rapidement, c'est pas nodin non plus que ce premier test, on pourrait dire, se passe à la télévision. Parce que le stagecraft n'est pas encore utilisé pour des longs métrages en salle. Donc là, l'illusion passe mieux parce que les écrans sont plus petits. Mais le stagecraft pour le très grand écran, la technologie n'est sans doute pas encore prête pour ça.
Oui, Anne?
Oui, j'ai trouvé ça absolument passionnant, Mathieu. Et oui, effectivement, ça fait vraiment écho avec ce que je percevais depuis un angle tout à fait différent. Et voilà, on a un paradoxal effet studio, parce qu'effet, je trouve ça un effet carton-pâte. En fait, moi, j'avais l'impression qu'il y avait des limitations techniques et ou budgétaires. Enfin, c'est comme ça que je l'interprétais, quoi, quand je regardais ce qui se passait, ne connaissant absolument pas cette histoire de stagecraft que j'ai trouvée vraiment, vraiment sidérante, en fait. D'ailleurs, je veux bien avoir plus d'infos sur les cristaux qui poussent. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein?
Il y a les extras qui sont assez incroyables, d'ailleurs, les extras de la série. Je ne sais plus s'ils sont sur Netflix ou je sais.
Ils sont sur Disney+, il me semble. J'en ai entendu parler, je n'ai pas encore regardé.
Oui, et c'est fascinant, hein. C'est vraiment incroyable. Parce que là, on voit de façon pragmatique, si on veut, on voit le fonctionnement.
D'accord.
Une des grandes révolutions, tu l'as évoqué, c'est pour les acteurs. Parce qu'un des grands problèmes avant, c'était le fait que les acteurs avaient toujours cette impression de jouer dans le vide. Ce qui, évidemment, est un défi, alors que là, les acteurs sont vraiment dans un environnement. Donc, on est toujours autour de l'illusionnisme du théâtre à machine, en fait. On retombe toujours sur ces choses-là.
Bah oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait ? On a un gros gus inexpressif, mignon, et un gars avec un casque. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est à ce moment-là, si c'est ça que c'est censé apporter, pourquoi ? Enfin,
oui.
On touche aussi à une vraie limite.
C'est ça qui est ironique et à la fois un peu triste, que l'effet spécial le plus intéressant est hors scène jusqu'à un certain point. On ne le voit pas apparaître dans le show, alors que c'est beaucoup plus impressionnant que toutes les technologies dans le TV show en question. Alors qu'on est censé être dans une planète quand même où les technologies sont très avancées.
Oui, non, tout à fait. Et André-Philippe, donc toi, tu voulais évoquer la question de le mantra « This is the way ». Et comment c'est à la fois ce qui articule l'identité mandalorienne et la réappropriation fanique.
Exactement. Ben, ça va reprendre quelques trucs qui ont déjà été dits par la force des choses, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a une lecture quand même similaire, peu importe l'angle qu'on prend. Donc, c'est un mantra qui apparaît dans le troisième épisode de la première saison, donc assez tôt, et qui va servir à justifier de nombreuses fois narrativement toutes les actions et tous les choix que peut faire le protagoniste au début. Ça peut, jusqu'à un certain point d'ailleurs, se rapprocher autant de l'utilisation des fans que comme sorte de motivation diégétique de que la force soit avec toi, où la force avait ce côté-là qui pouvait expliquer à peu près tout, une sorte de deus ex machina qui pouvait, par exemple, expliquer comment le simple fermier Luke réussissait aussi facilement à détruire l'étoile de la mort et toutes les choses qui vont suivre par la suite. Également, c'est quelque chose qui va très rapidement se révéler un certain caractère sectaire du groupe des Mandaloriennes. Donc, on voit ça assez rapidement. D'ailleurs, même l'usage de la force, ça avait déjà un peu ce côté-là dans la prélogie de parfois être un peu sectaire et ne pas permettre au personnage de vraiment aller où il voulait. Donc, on a vraiment très tôt ce problème-là qui est sous-entendu. Et comme on l'a dit, toute la série va nous montrer l'humanisation du personnage, le fait qu'il va gagner en empathie. Là où au début, c'est présenté à peu près comme qui est vide. C'est presque pas dommage de ne pas voir le personnage, étant donné qu'au final, il semble avoir assez peu d'émotions. Et petit à petit, il va enlever son casque, se libérer de son éducation qu'on pourrait qualifier d'endoctrinement, étant donné qu'il a été ramassé très jeune par un groupe de chasseurs de primes, alors qu'il était traumatisé par la mort de sa famille par des robots. Donc, comment il est devenu, jusqu'à un certain point, une arme à part entière, comment il ne doit jamais exprimer d'émotion, mais seulement être ce visage anonyme, comme ils sont un peu tous. Donc, d'emblée, il y a ça, et évidemment, il va progressivement enlever son masque, notamment dans la scène finale. Donc, on apprend même au début de la deuxième saison qu'il s'agit que un des groupes des Mandaloriennes qui est jugé plutôt extrémiste par d'autres. Donc, c'est vraiment une manière de souligner qu'il y a d'autres manières de faire, ce qui était déjà assez envisageable que le personnage allait s'humaniser, que peut-être allait finir par enlever son masque, étant donné que c'était qu'une contrainte un peu déshumanisante. Donc, ce qui m'a particulièrement intéressé, une fois qu'on sait ça, c'est comment les fans se sont réappropriés cette phrase qui revient beaucoup ces temps-ci dans beaucoup de discussions, de mimes, d'illustrations qu'on peut trouver sur le web. Donc, évidemment, on la retrouve liée au fandom de Star Wars et même plus généralement à toute la culture pop. Je vais seulement m'intéresser à Star Wars. De toute façon, c'est très similaire. Et j'ai observé, en passant rapidement, sans faire évidemment une étude exhaustive, trois principales utilisations de la citation « This is the way ». Donc, la première, je vais passer vraiment très rapidement parce que toute Star Wars fonctionne un peu de cette même manière-là, c'est-à-dire tout ce qui est produit dérivé et production de fans, qui est dès qu'il y a un motif assez important, on va le retrouver sur des t-shirts, des images, des tattoos, des chansons. Donc, c'est toujours quelque chose qui est apparu dès les premiers films de Star Wars. Donc, c'est également le cas avec This is the Way, qui est une des manières avec Bébé Yoda de parler de la série et de l'amour pour beaucoup de fans de celle-ci. Comme on l'a déjà un peu mentionné, c'est aussi, et on le voit vraiment chez les fans, une réponse que la série permet envers toute la nouvelle trilogie 7-8-9 que plusieurs fans n'ont pas du tout aimé. Et c'est sans arrêt le mantra qui souligne pour dire que c'est jusqu'à un certain point le bon retour aux sources à ce qu'il aimait, comme on le dit, régressif et nostalgique, et qui aimerait effacer jusqu'à un certain point un prolongement narratif qui constitue la nouvelle trilogie. Je vais faire un divulgation très important. Donc, si vous n'avez pas vu la fin de la deuxième saison, ça va durer moins de 30 secondes. On a cette scène finale avec Luke qui a un peu cette fonction-là de nous remontrer le Luke qu'énormément de fans auraient voulu voir dans l'épisode 8, comme on finissait aussi le septième film. C'est-à-dire un Luke qui est entièrement fantasmé à partir des éléments narratifs qu'on trouvait dans l'épisode 6 et qui était déjà de toute façon développé dans l'ancien univers étendu qui est maintenant sorti du canon, qui est devenu Legend, mais qu'on peut toujours lire. C'est à peu près ce Luke-là qu'on avait déjà droit. Donc, c'est vraiment d'y redonner vie. Et cette nouvelle adaptation de la saga est aussi très souvent qualifiée par les fans de respectueux. C'est vraiment un vocabulaire qui est énormément apparu, surtout depuis Star Wars épisode 8, qui lui s'est fait qualifier d'épisode très irrespectueux envers la saga, envers ses codes, envers son héritage. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que ça pourrait être passablement long d'étudier le film et The Mandalorian, mais je trouve des fois un peu dommage que les fans veulent absolument un peu toujours retrouver la même chose et ne pas permettre une certaine implosion de la saga qui permet de réutiliser certains codes et potentiellement des années ailleurs, notamment une force qui serait laïque, des chevaliers Jedi qui ne seraient pas nécessairement issus de grandes lignées. Donc, quand même quelque chose de potentiellement intéressant pour éviter que la série, la saga plutôt, s'enferme entièrement toujours dans les mêmes codes, ce qui peut évidemment être assez nuisible. Je fais juste préciser aussi que c'est pas un phénomène nouveau. Déjà, quand l'épisode 3 était arrivé, avait fini la prélogie, il y avait beaucoup de fans à l'époque qui avaient repris le « Fail I have » de Yoda pour dire que c'était, dans le fond, ce que George Lucas pensait de sa prélogie, comme quoi c'était pas très bon et que c'était un échec. Donc, c'était déjà quelque chose qui existait. C'est ça s'est encore plus répandu avec les moyens sociaux actuels et le fait, comme on l'a déjà dit, que The Mandalorian est quand même une série assez populaire. Dernière visée qui est assez intéressante, autant de fonctions humoristiques qui est parfois aussi liée à certains dérives réactionnaires, donc une manière de réutiliser les codes de la série pour aller dans des messages parfois politiques et sociaux. Donc, je vous donne quelques exemples, ça va donner un peu plus concret. Donc, on a probablement quelques comparaisons christiques du « This is the way » qui va remplacer des « Amen » dans les vrais textes religieux. On a aussi beaucoup de représentations de bébé Yoda qui fait figure de Christ, c'est-à-dire comme ce miracle qu'on attendait que Mando doit prendre soin. Vraiment un peu d'iconographie qui est dans son berceau initial comme Jésus dans son étable. On a évidemment, et ça c'est à cause d'événements historiques qu'on a tous vécu depuis un peu plus d'un an, tout ce qui touche le coronavirus, c'est-à-dire j'ai un mime devant moi où on a une image de Mando et c'est écrit « Be like a Mandalorian ». C'est quelqu'un qui garde ses distances, qui évite les grands groupes et qui ne touche pas son visage. Donc, « This is the way ». Donc, c'est le genre de truc qu'on retrouve beaucoup. Il y en a eu évidemment avec des personnages comme Darth Vader également. Étrangement, c'est souvent les méchants qui sont cités parce que c'est eux qui portent des masques dans l'univers Star Wars. Donc, on en a eu aussi, ça m'a quand même un peu attristé, même si je sais qu'une partie des groupes de Star Wars ont des valeurs assez opposées aux miennes. Mais à propos des armes à feu aux États-Unis, c'est-à-dire le discours que les armes font partie de leur religion, de leur manière de vivre et que c'est absolument pas quelque chose à toucher. Donc, évidemment, des discours assez réactionnaires. On en a aussi sur tout ce qui touche l'érudition de la saga. J'en ai déjà un peu parlé à propos de la manière dont comme la nouvelle trilogie ne serait pas la bonne voie, parce qu'évidemment, on peut aussi mettre un « ne pas » à « this is the way »,« this is not the way ». Et on a également, finalement, sur l'extravagance et de la passion de la collection des fans de Star Wars, une autre image que j'ai à l'écran, on a un gars, évidemment, blanc, hétérosexuel, qui est dans son lit double, à côté de lui, c'est pas sa blonde, c'est un croiseur interstellaire format géant, et sa blonde, elle doit dormir à terre, l'air un peu écœuré par la situation. Donc, c'est évidemment toujours un certain malaise devant ces blagues qui sont soit un peu toxiques et misogynes sur la préférence du fandom à sa copine, ou même ce serait une blague qui viserait, par exemple, les clichés des fans. Dans tous les cas, j'ai un certain malaise. Mais ce qui m'intéressait surtout dans cette présentation, c'est moins de faire des procès d'intention, ni de surinterpréter des braconnages, mais surtout de souligner la dimension paradoxale entre l'utilisation du mantra dans la série, qui est assez problématique, comme j'ai essayé de le montrer, et son application actuelle dans le fandom, qui est, elle, entièrement positive. Donc, je veux dire positive pour ceux qui l'utilisent, évidemment. Et conclure avec un constat qui, lui, ne fait peu de doute. À l'image de tous les partages qu'on a eu des photos de bébé Yoda et des gifs animés, il s'agit d'une célébration de la série qui a généralement convaincu le public. Et c'est un des succès qu'on peut lui donner, Mathieu en a montré un autre, mais qu'une bonne partie des fans, telle est maintenant la voie et la manière de faire du Star Wars, et que pour beaucoup d'entre eux, pour avoir quand même beaucoup regardé les réactions du fandom, l'équipe qui est présentement sur The Mandalorian pense un peu comme les sauveurs de la franchise et une manière de ne pas aller vers des réalisations qui seraient comme l'épisode 8 et qui seraient irrespectueuses.
Oui, c'est une réaction à la déconstruction, puisqu'il y avait un aspect de déconstruction dans la trilogie initiale qu'on n'attendait pas du tout de Disney. Je dirais aussi que This is the Way est très problématique, comme la figure de Mandalorian, qui au fond, même à l'intérieur de l'univers de Star Wars, il participe de la déshumanisation des troopers et donc de l'Empire, et que par ailleurs aussi de la caste comme les Jedi dans leur versant ambigu de la prélogie. Donc au fond, les Mandaloriens sont quand même une figure pas si sympathique dans un sens. Ils participent un peu des deux figures. C'est une sorte de Jedi impériaux, ce qui est un peu le cauchemar ultime, un peu une figure incertaine. Une certaine figure de fascisme. Et d'ailleurs, les thèses de TV Light, de Klaus TV Light, sur l'imaginaire des Freikorps et le corps armure, etc., etc., va beaucoup dans le sens de ces corps qui sont des armes et dans lesquels s'intègrent les Mandaloriens. Et effectivement, le fait que progressivement, il y a une humanisation, c'est déjà l'épisode où il enlève son casque pour se faire identifier, pour obtenir l'information qui va lui permettre de sauver donc Grogu, c'est déjà le fait de ne pas obéir à une loi qui, au fond, est essentiellement mortifère. Et donc, on sent qu'il y a aussi un certain affranchissement du personnage par cette paternité assumée, symbolique, qui va le sortir de ce régime déshumanisant.
Oui, moi, par rapport à ce qu'a dit André Philippe, est-ce que tu as des... J'ai bien vu le gros succès de la série, que donc la première saison avait été très bien reçue, mais qu'il me semblait qu'il y avait eu beaucoup plus de remous, notamment autour du dernier épisode de la seconde saison, et où voilà, il y avait eu beaucoup de gens qui disaient ça suffit, c'est plus possible, j'arrête The Mandalorian, voilà, selon des réactions épidermiques qui se sont multipliées voilà, autour des séries télé ces derniers temps. Donc, est-ce que tu avais constaté ça toi aussi?
Ben, de ce que j'ai regardé, c'est sûr que c'est très dur, étant donné la grosseur de la communauté de fans, d'avoir un gars parfait, peu importe où on se place. J'ai vraiment essayé de beaucoup regarder, notamment parce que je savais que j'allais parler de ça, et que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à travers cette franchise-là et d'autres, la réaction des fans. Mais par exemple, juste une statistique qu'on peut questionner, mettre en doute, peu importe, là, mais sur IMDb, ça passe comme la 69e série la plus populaire de tous les temps. Et c'est quand même un gros site, un gros bassin. Et évidemment, le monde peut changer de nom n'importe quand. Donc, j'ai l'impression, comme ça a déjà été fait par le passé, que si les fans avaient tant détesté la finale, ils auraient pu essayer de faire une campagne comme ils l'ont fait pour Captain Marvel, Star Wars 8 et plein d'autres films, d'essayer que ça apparaisse. Ils auraient aussi fait probablement fait plein de vidéos sur YouTube pour dire, il y en a probablement eu, comme tu dis, mais moi, ce que j'ai surtout vu, c'est, encore une fois, divulgation très important, l'apparition de Luke à la fin, que beaucoup de monde se filmait en train de pleurer et qui considérait ça très positif comme le personnage qui avait toujours... Apparemment, il y a même eu cette réaction-là, c'est des personnes qui n'avaient jamais vu la trilogie originale. C'est quand même assez intéressant. On a vraiment comme la figure mythique qui apparaît, même si on n'a pas vu le canon originel, je mets des gros guillemets, on ressent cet effet-là. Après ça, on peut toujours se poser la question, est-ce que la franchise pourrait survivre avec la perte du duo initial? C'est là-dessus que se clôt la deuxième saison, étant donné que, à mon avis, le personnage de Mandalorian n'est pas spécialement intéressant, malheureusement. Donc, je ne sais pas à quel point. Les deux premières saisons n'ont pas nécessairement convaincu à ce niveau-là.
D'accord, oui, je ne savais pas sur cette fin-là. Merci.
Et Anne, tu voulais revenir aussi sur la mise en valeur justement de l'iconographie. C'est un des éléments qui, moi, m'a le plus plu aussi à la fin de chaque épisode quand on voit les artworks, les illustrations, qui d'ailleurs font hommage au travail de McQuarrie dans la trilogie originale. Et tu voulais nous parler de ça?
Oui, parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé en entendant Mathieu, comme là encore un nouvel effet dynamique autour de ces questions d'image. Et autant, moi, j'avais effectivement ressenti un effet de saturation, à la fois en particulier au niveau du récit et de l'univers fictionnel, autant il m'a semblé que à la fois la musique, parce que, voilà, disons un peu du bien maintenant, à la fois et de l'iconographie, il y avait des choses intéressantes qui étaient introduites. Et donc, ce contraste entre... Enfin, je ne sais pas si c'est un contraste, d'ailleurs, mais entre l'hypertechnologie du stagecraft, hein, et là, le média plus originel que serait l'illustration façon Pulps. Donc, est-ce que c'est un... ou est-ce que ça va dans le même sens puisque les artworks sont aussi quelque chose qu'on a commencé à beaucoup voir au fur et à mesure que montait l'intérêt pour les jeux vidéo ou voilà, l'envahissement de certains films par des effets spéciaux amenait à mettre en valeur ce travail antérieur des studios, à quelque chose de très artisanal qui en fait existait. Nous, par exemple, à Paris, on a eu un musée des arts ludiques qui exposait énormément, qui est fermé depuis plusieurs années pour s'agrandir, tellement il a eu de succès, et donc qui sur Pixar ou sur Marvel, etc., présentait des expos d'artwork qui avait un grand succès.
Je trouve ça super intéressant comme observation. Anne, je dirais que c'est l'utilisation des artworks dans Mandalorian est un peu comme plein d'autres choses de cette série-là, un peu comme une sorte de leurre d'authenticité, je dirais. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils travaillent avec des artworks au niveau de la production pour préparer le film, ça c'est sûr. Mais disons que dans le cas de la première trilogie ou de la deuxième trilogie de Lucas, là aussi, bon, il y avait beaucoup de travail fait à partir d'artworks, mais disons que bon, dans la première, ils faisaient des artworks, puis après ça, venait le temps de construire de toutes pièces en maquette. Dans la deuxième trilogie, venait le temps de construire en toutes pièces, mais vraiment avec des éléments numériques qui étaient modélisés par infographie. Alors que là, dans Mandalorian, vu qu'on est rendu, disons, dans une espèce d'époque d'hyper-réalisme hein, au niveau du numérique, et où on est vraiment dans un paradigme technologique où est-ce que il y a comme une hyper-définition, en fait, hein, de la qualité d'image, de la qualité des textures qu'il y a dans les images. Et en fait, le fait est que pour atteindre ce degré de détail, les infographistes, plus souvent qu'autrement en ce moment, ne travaillent plus en créant de toutes pièces. C'est-à-dire que les artworks de Mandalorian, la plupart du temps, en fait, ma main au feu, hein, il y a l'artwork de base en pré-production qui aide bon, aussi pour mettre un peu le ton de l'épisode, l'ambiance, les jeux d'éclairage, tout ça. Mais après, au niveau vraiment de la production de ces arrière-plans-là, il y a beaucoup, en fait, d'emprunts, puis du genre des gens de Lucasfilm qui vont aller photographier, je sais pas moi, ça peut être une bouche de métro, ça va être un vieil immeuble en ruine ou ça va être le désert californien. Et en fait, ils vont utiliser ces textures-là, qui sont des textures réelles, ils vont les intégrer après ça dans le logiciel, puis après, ils vont comme en ajouter des éléments de science-fictionnel en quelque sorte pour se le réapproprier. Mais disons que c'est beaucoup plus dans une logique de cut and paste, quasiment de scrapbooking hyper digital pour les épisodes 1, 2, 3 où c'était vraiment de la construction de toute pièce à partir du artwork. Donc du coup, ben, l'utilisation du artwork à la fin, oui, c'est sûr, c'est très beau, ça fait des très beaux génériques, puis ça rappelle donc toute cette histoire-là d'influence qui ont mené vers Star Wars. Mais en quelque sorte, c'est aussi, je trouve, une sorte de leurre.
Qui va avec la nostalgie dont on parlait, l'évocation nostalgique et la fabrication d'une fausse authenticité. C'est vrai que bon, je pense que c'est une série par rapport à laquelle on est quand même partagé dans le sens qu'on reconnaît beaucoup de ses qualités, mais il y a aussi des promesses qui ne sont pas tout à fait tenues, notamment du point de vue de la construction des personnages et tout cet aspect un peu lassant. Au bout d'un moment, les structures de mini-quêtes qui viennent un peu des jeux vidéo aussi deviennent un peu lassant. La multiplication des opposants et leur extermination systématique, ça enlève un peu un ressort dramatique. Il n'y a plus vraiment d'enjeu. On sait tout simplement que Mando va sortir des projectiles un peu magiques qui vont dégommer tout le monde un peu à la manière d'un mauvais first-person shooter. Et enfin, le fait que bon, les relations avec les alliés, les adjuvants de sa quête sont aussi très instrumentales et très instrumentalisées. L'œuvre ne respire pas énormément à ce niveau-là.
Toujours sur les artworks, j'avais envie de réagir parce que c'est assez paradoxal. Je trouve que ces petits génériques-là sont souvent plus intéressants que les épisodes. Et c'est là que ça nous montre que des fois, ce que les fans veulent, c'est peut-être mieux de ne pas être entièrement concrétisé, surtout que la série, à mon avis, comme tu l'as mentionné, est souvent mal écrite, mais c'est vraiment juste avoir ces petits bouts-là ou juste avoir, mettons, une bande-annonce qui aurait duré 2-3 minutes nous aurait permis de rêver, de nous imaginer un peu le récit sans nécessairement complètement le finir et sans justement que ça puisse devenir aussi répétitif. Donc, juste jouer sur le mystère, sur ces possibles rencontres-là, je trouve ça beaucoup plus intéressant que vraiment le concrétiser. Et c'est souvent, mettons, ce qui arrive quand ils font un film de jeu vidéo ou beaucoup de production pour les fans, c'est qu'au final, ça ne réussit pas à nous donner ce qu'on veut parce que, justement, paradoxalement, ça nous le donne trop.
Oui, puis ça rejoint ce que disait Anne, c'est qu'à un moment donné, il y a une saturation de ces référents et on est un peu dans un circuit en vase clos et que peut-être que, paradoxalement, toutes ces grandes franchises qui se conçoivent de plus en plus comme des univers à explorer, du type Marvel Universe, DC, Universal Horror, qu'ils ont essayé de faire avec les films d'horreur des années 30. Ben, en fait, à chaque fois, c'est qu'on veut les faire respirer. Donc, on fait appel à des gens un peu intéressants, qui ont fait des trucs différents, décalés, etc. Mais au fond, on est aussi toujours ramené vers le même et dans la question du fandom, etc. Oui, Anne?
Oui, alors John Favreau n'est pas vraiment quelqu'un qui vient complètement d'ailleurs. Hein. Là, il faut bien l'avouer.
Non, mais les réalisateurs, ils ont quand même fait appel à toutes sortes de gens, Robert Rodriguez, tout ça. Donc, il y a une volonté à chaque fois un peu dans ces franchises d'intégrer des gens qui pourraient apporter des choses différentes. Mais au fond, c'est toujours un peu la même chose. D'ailleurs, l'épisode de Robert Rodriguez, si tu ne sais pas que c'est Robert Rodriguez, ça ne fait pas non plus une très grande différence.
Non, c'est vrai. Oui, alors ce pourquoi je voulais intervenir, c'était ce que disait André Philippe, et revenir à nouveau sur cette séduction des artworks. Donc, ce que je considère effectivement comme la série, je la trouve séduisante. Je trouve qu'elle exerce une séduction sur nous, et puis une espèce de frustration qui va avec, c'est-à-dire que voilà, elle n'est pas à la hauteur des promesses cependant renouvelées qu'elle nous fait, et en particulier le générique, les artworks, ce qui est très appréciable dedans, et c'est vraiment ce que tu disais, André-Philippe, c'est le fait que les images ne soient pas exactement les mêmes que celles qu'on a vues durant l'épisode, que les personnages n'aient pas été réalisés pareil, que le personnage de Kara notamment, il soit pas conforme entre les artworks et ce qu'elle a finalement donné à l'écran. Et c'est ces moments de décalage qui sont particulièrement appréciables parce qu'ils réintroduisent justement ce jeu, hein, cette liberté dans la mécanique qui est ce qu'on veut retrouver à chaque fois.
Oui, absolument.
J'aurais peut-être un dernier élément qui, à mon avis, a quand même été une autre séduction, mais là, plus envers nous. La série n'en avait pas beaucoup, mais j'ai trouvé quand même intéressant qu'il caste Herzog pour lui donner un petit rôle. C'est le moment où beaucoup de personnes, je pense que c'est Simon Labéra qui avait dit, hey, c'est le moment où je suis quand même curieux de voir la série, surtout qu'il jouait un peu lui-même. Donc, c'était quand même, et c'était pas pour le grand public, là. J'ai Sondage Maison m'a dit qu'à peu près personne de mon entourage le connaissait, sinon, à part évidemment des cinéphiles. Donc, c'est le genre de moment qui essaie quand même si des fois c'est maladroit et que c'est pas assez exploité, de rejoindre le plus de gens possible.
Oui, puis moi, par exemple, il y a un moment que j'avais bien aimé, c'est l'hommage à ce petit film culte de la fanfiction de Star Wars, de Troopers, où il y a justement les deux Troopers qui sont en train de parler un peu à la Tarantino. Et c'était très bien, sauf qu'en même temps, ce n'est pas le ton. Et ça aurait été très intéressant que Mandalorian aille dans ce sens-là, c'est-à-dire explorer la vie quotidienne à la fois des Troopers, des gens de la frontière, avec leurs petits trucs, sans nécessairement s'aligner sur des quêtes vidéoludique et des Easter eggs et du fan service et tout ça, mais justement faire respirer ça en réhumanisant la saga et en disant bon, c'est quoi être un trooper dans ce contexte-là où finalement l'Empire est déconfit. Tout ça permettait, il y avait dans cette idée qu'on est juste à la déconfiture de l'Empire, il y avait des possibilités narratives intéressantes. C'est un peu ce que tu évoquais aussi avec Lone Wolf and Cub, donc les Ronins, donc la fin du système des Shoguns, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ce vide de pouvoir, on pourrait voir des trucs intéressants aussi d'un point de vue politique quand la Nouvelle République établit des nouvelles lois, par exemple. Enfin, il y avait des choses qui auraient pu être très intéressantes à explorer et qui finalement sont restées purement anecdotiques.
Surtout que le format anthologie permettait, comme tu me disais, Antonio, que dans le dernier épisode de la première saison, on a vraiment un épisode très méta où les personnages essaient de tirer comme un gobelet et ils n'y arrivent pas. Et c'est comme, moi, je vais te montrer, moi, et lui non plus, il n'y arrive pas, ce qui est un gag récurrent du fandom que les Stormtroopers ne sont jamais capables d'atteindre leur cible. Et ça a quand même cet intérêt-là, c'est juste dommage que ça n'a pas été plus exploité parce que le fait d'avoir une trame narrative aussi simple et souvent un peu vide aurait permis d'avoir des vraiment pépites à certains moments au moins.
Oui, absolument. Donc, je pense qu'on va vous remercier tous et toutes pour votre visionnage très attentif et pour éclairer tous ces différents aspects de la série. Merci à tous et à ceux et celles qui nous ont écoutés et on se retrouve bientôt pour des nouvelles émissions.